Bureau d'enregistrement des rêves.
Bonjour, j'aimerais déposer plein de rêves. C'est pour le super jackpot EuroMillions.
Plein, c'est combien?
Des dizaines.
Combien?
Et peut-être même des centaines, qui sait?
Patientez. Bon, Brigitte, tu m'attends pas pour déjeuner, hein? J'ai un super jackpot.
Ah oui, là, on n'a pas fini, là.
Prends-moi un sandwich!
Oui, moi aussi, hein, deux!
EuroMillions My Million. Venez avec vos rêves. Ce vendredi, super jackpot EuroMillions de 100 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un siècle après, Franck Ferrand revient aujourd'hui sur le printemps 1914 et sur les prémices de la Première Guerre mondiale. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avons parlé la semaine dernière des causes immédiates de la Grande Guerre avec Pierre Baron. J'aimerais aujourd'hui en évoquer les origines plus lointaines et plus générales. L'idée m'est venue de cette émission pour tout vous raconter. Il y a un certain temps déjà, lors des vacances de Noël, en lisant un ouvrage passionnant, un essai dense, plein d'idées essentielles pour mieux comprendre le destin de l'Europe. Ça s'intitule 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation. L'auteur Jean-Pierre Chevènement a répondu à mon invitation, j'en suis très heureux.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Loïc via la page Facebook de l'émission. Il nous l'a envoyé sur la page Facebook sur l'origine de l'expression des potrons minés ou des potrons jaquets.
Ben voilà, l'une étant l'ancêtre de l'autre, vous allez voir. Pour le moment, je vous propose de nous retrouver un peu plus d'un siècle en arrière, lorsque la guerre apparaissait comme une issue inéluctable de toute une convergence de forces, de principes et de circonstances.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Tigre de papier, l'image forgée par Mao Zedong pour définir Chiang Kai-shek dans les années 1950 convient de manière idoine à la grande figure politique emblématique des années d'avant-guerre, celle de la première décennie du XXe siècle, l'empereur d'Allemagne Guillaume II. Guillaume de Hohenzollern, celui que toute l'Europe, que le monde entier n'appelait alors que le Kaiser, l'empereur en allemand. En 1914, le Kaiser a 55 ans, il en paraît davantage, il règne alors depuis un quart de siècle, depuis 1888. C'est un personnage passionnant, il est objectivement intelligent, charismatique, mais il est également instable, dépressif, grandiloquent jusqu'au ridicule, tout à fait charmant en privé de l'aveu de ceux qui étaient amenés à le croiser, mais en même temps insupportable en public par son égotisme, son cabotinage et sa volonté d'être toujours au centre de tout. On ose imaginer ce que les guignols de l'info, s'ils avaient existé à l'époque, auraient pu faire de ce personnage en soi caricatural. Les critiques à son égard étaient acerbes dans la presse française ou britannique. Elles se devaient d'être plus voilées forcément en Allemagne, où les accusations de lèse-majesté tombaient très vite, même si certains s'amusaient à brocarder le Kaiser en feignant de parler de quelqu'un d'autre. Je pense par exemple à ce jugement sur Caligula, porté par un grand historien allemand de la Rome antique, Ludwig Quidde. L'autoritarisme sans ménagement, écrivait Quidde, les velléités réformatrices inattendues, les subites et cruelles disgrâces de personnages haut placés apparurent vite comme les signes d'un dérangement mental. Les manifestations de cette psychopathie césarienne sont la folie des grandeurs poussées jusqu'à la déification de soi-même, le mépris de toute barrière légale et une cruauté absurde. Suivez mon regard et comprennent qui pourra. Pas mal de monde du reste si l'on considère que le volume en question s'est arraché à 500 000 exemplaires dans l'Allemagne de l'époque, ce qui, dans les années 1900, était énorme et prouve que même en Allemagne, très nombreux étaient ceux qui supportaient difficilement ce curieux empereur fantasque à la moustache retroussée en guidon de vélo, vous savez, moustache aussi célèbre que celle plus proche de nous d'Hercule Poirot ou de Salvador Dali. Son propre univers était celui de la mythologie allemande, de l'anneau du Nibelung. Il se prenait lui-même pour une sorte de Siegfried, si vous vous voulez. Le Kaiser est par-dessus tout soucieux de son image. Il avait beaucoup peiné depuis la tendre enfance à dissimuler l'infirmité de son bras gauche atrophié. Il s'était construit contre une mère mal aimante et cela avait fini par faire de lui une sorte de matamor. Il passait des heures, dit-on, à se regarder dans un miroir. C'est en tout cas ce que raconte la pseudo Ursula von Eppinghoven. Il possédait plus de 500 uniformes et constellait ses tenues chamarrées de cordons, de sautoirs, de rosettes, de tous les ordres de décoration possibles et imaginables. Le Kaiser était un passionné. C'est un homme de l'esbrouf, si vous voulez. C'était un passionné de revues et de défilés militaires, un chasseur frénétique, un marin infatigable à la barre de son yacht en forme de cuirassier, le Hohenzollern, mais aussi, du moins le croyait-il, un historien, un musicien, un poète. C'est là que, évidemment, le rapport avec un certain nombre d'empereurs romains ne peut pas ne pas être évoqué. Il était surtout, en vérité, si l'on en croit l'historiographie, un parfait poltron, qui aurait été le premier effrayé de voir le vieux monde auquel il était si attaché sombrer dans un conflit qui, du reste, devait lui coûter son trône. « En 4 ans de guerre, écrit Bernard Quillet, on ne le verra jamais dans les secteurs risqués du front. » Au moment les plus sombres d'octobre 1918, à chaque fois que ses généraux lui font valoir que seule son apparition en première ligne pourrait désormais redonner du courage à son armée démoralisée, il répond uniformément « Oui, demain, peut-être » et il reste frileusement à l'arrière. Fin de citation. Ce tigre de papier n'en aura pas moins eu un rôle délétère dans ce qui nous apparaît a posteriori comme une course à la guerre. Ses rodomontades, ses gesticulations, son entêtement à souffler sur toutes les braises, mais plus encore son indulgence envers les milieux pan-germanistes berlinois, son aveuglement diplomatique, lié à ce qu'il faut bien appeler un complexe de supériorité, tout ça va produire des effets désastreux. Jean-Pierre Chevènement insiste pour sa part sur la rupture désastreuse de l'alliance russe voulue et consolidé pourtant par Bismarck. Je le cite. « En ne renouvelant pas le traité de réassurance avec la Russie au prétexte qu'il avantageait cette dernière, Guillaume II, à peine monté sur le trône, a détruit par inconscience le dispositif de sécurité patiemment élaboré par Bismarck. Son successeur Caprivi lui dit « Un homme comme vous peut jongler avec cymbales à la fois, tandis que d'autres font bien de se limiter à une ou deux. » Par cet acte inconsidéré, Guillaume II va jeter la Russie dans les bras de la France et créer par là cet encerclement largement fantasmé qui, 24 ans plus tard, le conduira à déclarer la guerre à la Russie et à la France sous prétexte de prévenir le danger. Ne nous y trompons pas. Même si après la guerre, après la déposition de Guillaume II et son exil aux Pays-Bas, une sorte d'unanimité mondiale s'est faite pour lui imputer la responsabilité première de ce conflit, il aura été, en vérité, loin d'être le seul bout de feu de cette Europe instable. Peut-être même n'aura-t-il au fond été qu'une sorte de mouche du coche très visible. Nous allons revenir tout à l'heure avec Jean-Pierre Chevènement sur les logiques et les engrenages qui ont conduit l'Europe et le monde à la Grande Guerre. Avant cela, j'aimerais insister sur l'état d'esprit qui pouvait régner dans notre vieux monde à l'aube de ce conflit. En 1912, en 1913, encore au début de 1914, il y a donc un siècle. Je le ferai en m'inspirant aussi d'un autre livre remarquable sous-titré « Comment l'Europe a renoncé à la paix » et signé d'une célèbre historienne d'Oxford, Margaret Macmillan. Son ouvrage s'intitule « Vers la grande guerre ». Les thèses qu'elle y défend sont assez différentes de celles de Jean-Pierre Chevènement. Évidemment, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il s'agit d'un gros pavé publié par les éditions Autrement, épais donc, mais qui allie constamment de grandes synthèses et des vues générales sur les causes économiques, stratégiques, sociales, politiques et, très important, culturel du conflit, tout en fourmillant d'anecdotes étonnantes, des questions de santé, des affaires d'amour, des considérations d'ambition personnelle qui nous rappellent que la plus grande histoire n'est jamais dissociable vraiment de la petite. Madame Macmillan explore toutes les couches des populations d'Europe, évidemment, mais elle n'est jamais si percutante, me semble-t-il, que lorsqu'elle se penche sur le cas des élites intellectuelles allemandes, françaises, anglaises, et qu'elle nous montre à quel point, dans ses esprits parmi les plus brillants qui furent jamais, l'idée de guerre avait fini par s'imposer.
John Williams sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Cheval de guerre, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 2011. Franck Ferrand nous parle de l'état d'esprit en Europe à la veille de la guerre de 1914.
Et oui, c'est Margaret Macmillan qui nous en parle et qui évoque parmi les intellectuels allemands de l'avant-guerre celui qui a été l'ami alors d'un grand nombre de personnalités, d'Auguste Rodin, de Pierre Bonnard, chez nous de Hugo von Hofmannsthal, de Nijinsky, de Diaghilev, d'Isadora Duncan, de George Bernard Shaw et de Gustav Mahler et de tous ces grands, vous savez, cette extraordinaire efflorescence intellectuelle de l'Europe de l'époque. Et tous ces gens correspondaient entre eux. Et le personnage en question, il s'appelle le comte Harry Kessler, brosse le portrait suivant de la vieille Europe au bord du précipice. Voilà ce qu'il écrit. « Quelque chose de très grand, la vieille Europe cosmopolite et féodale, où prédominait encore l'élément rural, le monde des jolies femmes, des rois galants et des combinaisons dynastiques, l'Europe du XVIIIe siècle et de la Sainte Alliance, cette Europe se faisait vieille et débile au sens faible, glissait vers la mort, et quelque chose d'insaisissable encore, mais d'irrésistible de nouveau, de jeune, se préparait. Nous le sentions comme un froid, comme un printemps courir dans nos membres, les uns de façon vague, les autres comme une fièvre prometteuse de joie et de souffrances inconnues. » Il y a presque une forme de masochisme dans l'intelligentsia de cette époque, à voir se profiler un monde qui déjà n'a plus rien à voir avec celui qu'on a connu donc depuis déjà deux ou trois siècles. Cette Europe-là, nous dit Madame Macmillan, était à la fois puissante et troublée. Chacune des grandes puissances connut avant la guerre des crises politiques graves et prolongées. Et oui, tout ça n'est pas arrivé, bien entendu, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. La question irlandaise en Grande-Bretagne, rappelle-t-elle. Et c'est vrai que nous avons tendance sur le continent à négliger cet aspect qui a été déterminant pour le Royaume-Uni. Cette question irlandaise. L'affaire Dreyfus en France, évidemment, l'affrontement entre la couronne et le Parlement en Allemagne, les conflits entre nationalités dans l'Autriche-Hongrie ou la quasi-révolution en Russie. N'oublions pas qu'en Russie, une première révolution importante avait eu lieu dès 1905 à la suite de l'offensive malheureuse contre, enfin l'offensive ou plutôt la contre-offensive malheureuse contre le Japon. La guerre était parfois vue, nous dit Macmillan, peut-être avec raison, comme un moyen de dépasser les divisions et les antipathies. En 1914, dans toutes les nations belligérantes, on parlait de la nation en armes, de l'union sacrée ou de la sainte union, dans laquelle seraient oubliées les divisions de classe, de région, d'ethnie ou de religion, et où la nation se rassemblerait dans un esprit d'unité et de surface, donc une espèce de volonté de dissoudre tous les antagonismes qui avaient fortement bousculé la fin du XIXe siècle dans un élan commun vers la guerre, en quelque sorte. Autant dire que cette idée de guerre faisait son chemin, non sans danger pour l'Europe, écrit la directrice du principal collège d'Oxford. La guerre commençait aussi à être acceptée par beaucoup comme un fait inévitable. En 1914, à la veille de cette guerre, Oswald Spengler termina son grand livre « Le déclin de l'Occident », qui affirmait l'existence de cycles naturels pour les civilisations, l'Occident ayant, selon lui, atteint son hiver. Derrière la crainte de la dégénérescence et du déclin se trouvaient les hypothèses largement partagées découlant de la théorie darwinienne de l'évolution. Dans les années précédant 1914, ajoute-t-elle, ces idées étaient tout à fait dans l'air, et même ceux qui n'avaient jamais lu Darwin ou Spengler acceptait sans hésiter l'idée de la lutte, que la lutte était une composante fondamentale de l'évolution de la société humaine. Comme on pouvait s'y attendre, le darwinisme social plaisait aux militaires car il semblait justifier et même ennoblir leur métier. Mais il imprégnait aussi la pensée des civils, qu'il s'agisse d'écrivains comme Zola, d'hommes politiques comme Salisbury ou d'hommes d'affaires comme Rathenau. Il pouvait déboucher sur le pessimisme, une société faible ne pouvait échapper à l'extinction, ou sur un optimisme grinçant, tant qu'on pouvait lutter, il y avait de l'espoir, et notamment tant qu'on pouvait lutter par les armes. Le vecteur de cette lutte était ce qu'un jeune admirateur de Spengler, le jeune Arnold Toynbee, qui disait d'ailleurs du nationalisme, vous savez, Toynbee dans A Study of History dit « L'idée de nationalité était comme un ferment aigre du vin nouveau de la démocratie dans les vieilles outres du tribalisme. Il y avait cette idée chez les historiens dès l'époque. » Et Toynbee fera partie d'ailleurs d'une délégation qui participera aux négociations de la paix en 1919, qui dès cette époque considérait l'idée de nationalité comme faiseuse de guerre, en quelque sorte. En partie grâce aux nouveaux médias, nous dit Macmillan, la nation était en train d'acquérir une personnalité propre. Marianne, John Bull, l'oncle Sam, s'identifier à une nation plutôt qu'à une région ou un village était relativement nouveau pour la plupart des Européens, mais beaucoup d'entre eux mettaient les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Et c'est vrai que le nationalisme, la nationalité sont extrêmement présents. Alors ça, c'est la vision, évidemment, comme nous le disions, c'est la vision des historiens anglo-saxons qui considèrent cette idée de nationalité comme l'essentielle fauteuse de guerre. Nous verrons que ce n'est pas le point de vue de Jean-Pierre Chevènement. Margaret Macmillan explique en partie la guerre par l'inimitié entre les nations d'Europe et notamment par l'antipathie mutuelle entre l'Allemagne et la France, qui était encore plus grande, dit-elle, qu'entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Sauf qu'entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, on a très envie de lui rétorquer que, au-delà de l'antipathie, il y allait d'un véritable combat pour la domination économique et commerciale. Pour autant, les élites, même militaires, se méfiaient de la nouvelle forme que la guerre avait prise depuis la Révolution française. En 1890, écrit-elle, von Moltke, qui avait préparé et supervisé les victoires de l'Allemagne dans ses guerres d'unification, von Moltke déclara au Reichstag qu'avait pris fin l'époque des guerres de cabinet, c'est-à-dire des guerres déterminées par les dirigeants avec des objectifs limités. Tout ce qui nous reste, c'est la guerre du peuple, disait-il. Et un gouvernement prudent hésitera à déclencher une guerre de ce genre avec toutes ses conséquences incalculables. On peut dire qu'une certaine aristocratie des armes se méfiait de la conscription et de ces guerres de masse qui provoquaient et qui étaient souvent le prodrome de révolution, tout simplement. Et c'était d'autant plus vrai que les peuples, entre-temps, s'étaient militarisés. En Grande-Bretagne, raconte Macmillan, les enfants portaient des costumes marins et les écoliers du continent arboraient souvent de petits uniformes. Les lycées et les universités avaient leur corps de cadets. Les chefs d'État, sauf dans la France républicaine, portaient normalement l'uniforme militaire. Il existe d'ailleurs peu de photographies de François Joseph, de Nicolas II ou de Guillaume II qui les montrent en civil. Et leurs dignitaires les imitaient, beaucoup d'entre eux ayant fait leur service militaire dans des régiments d'élite. C'est en uniforme de major que Bethmann-Hollweg, c'est le chancelier du Reich, hein, de l'Allemagne au moment crucial, c'est dans un uniforme de major que Bethmann-Hollweg se présenta au Reichstag pour la première fois en tant que chancelier, dit-elle. Est-ce à dire que ce militarisme structurait les sociétés européennes en 1914? En tout cas, c'est elle visiblement qui les organisait politiquement et l'on se définissait, nous allons le voir dans un instant, largement par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire de l'armée. En Allemagne, ajoute notre historienne, l'institution militaire et les conservateurs s'étaient d'abord opposés à la propagation de l'entraînement militaire dans la société. Ça aurait pu donner à la population l'idée dangereusement radicale que l'armée appartenait au peuple. Vous voyez toujours cette réticence. Mais malgré la conscription, tous les appelés potentiels n'étaient pas élus et il était donc possible d'écarter les recrues non fiables, notamment les socialistes et les libéraux. Alors à propos du Kaiser et de son influence, Macmillan ajoute ceci, d'Allemagne, le Kaiser jubilait en observant les embarras de la France. « Comment pouvez-vous vous allier avec les Français » demanda-t-il à Nicolas II en 1913. Et c'est vrai que la République française fait à l'époque office d'État un peu brouillon, à côté évidemment de l'enrégimentement allemand. Le plus intéressant peut-être, c'est la conversion d'un certain nombre de penseurs et d'artistes à l'idée d'une guerre purificatrice. Le futuriste Marinetti n'était nullement le seul artiste à aspirer à la destruction violente de la confortable société bourgeoise qui met fin à ce que l'un d'eux appelait cette sale paix pourrie. Avec sa glorification de la force, de l'héroïsme et de la violence, écrit Macmillan, le poète Gabriele D'Annunzio eut aussi une influence énorme sur les jeunes de l'Europe entière. En 1912, pendant la guerre menée par l'Italie contre la Turquie, il se vanta à Kessler de l'impact de ses poèmes nationalistes durant cette tempête de sang et de feu qui passe sur le peuple italien, écrivait-il. En Grande-Bretagne, Rupert Brooke, un des poètes prometteurs de la jeune génération, appelait de ses voeux une sorte de soulèvement, et l'écrivain catholique conservateur Hilaire Belloc écrivit « Combien j'aspire à la grande guerre ». Le jeune nationaliste français Ernest Psychary, qui était un héros aux yeux de beaucoup d'hommes de sa génération à cause de ses exploits dans les colonies françaises en Afrique, attaqua quant à lui le pacifisme et ce qu'il percevait comme un déclin de la France dans l'Appel des armes publié en 1913. Utilisant une métaphore religieuse, comme souvent les nationalistes de l'époque, il attendait avec impatience la grande vendange de la force, ou une sorte de grâce inexprimable nous précipite et nous ravit. Il fut, précise-t-elle, tué au mois d'août 1914. Ce sera le cas également d'un certain Charles Péguy, évidemment.
Chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur les origines de la guerre 14-18 par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons à la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur l'état d'esprit qui régnait en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'état d'esprit qui régnait en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale.
Oui, et notamment en France. Vous savez ce qu'il y a de passionnant dans les années 1913-14, c'est le déplacement des frontières philosophiques et politiques qui s'y opèrent. Des gens classés à gauche, qui étaient interdits dans les salons du Faubourg Saint-Germain parce qu'ils avaient défendu le capitaine Dreyfus, notamment pendant l'affaire, donc une quinzaine d'années plus tôt seulement, hein, on les appelait les Dreyfusards, devenaient tout d'un coup fréquentables et même très recommandés parce que devant l'imminence du conflit, ils avaient fini par prendre le parti de l'ordre et de la guerre et ils avaient voté la entre parenthèses, c'est un paradoxe, hein, l'ordre et la guerre, mais nous y reviendrons. Et ils avaient voté la fameuse loi des trois ans de service militaire, ça valait pour une absolution du passé, en quelque sorte. Marcel Proust, dans Le Temps retrouvé, décrit ce phénomène avec délectation. Il compare le tout début de la guerre à la période du Directoire, et il montre que les lignes politiques donc se sont déplacées et que d'anciennes personnalités dreyfusardes étaient maintenant adoptées, en quelque sorte, par la bonne société. Les dames du premier Directoire avaient une reine qui était jeune et belle et s'appelait Madame Tallien, écrit-il. Celle du second, donc ce qu'il appelle le second directoire, ce sont ses tout débuts de la Première Guerre mondiale. Celle du second en avait deux qui étaient vieilles et laides et s'appelaient Madame Verdurin et Madame Bontemps. Personnage de fiction, dois-je préciser. Qui eût pu tenir rigueur à Madame Bontemps que son mari eût joué un rôle âprement critiqué par l'Écho de Paris dans l'affaire Dreyfus ? Toute la chambre étant à un certain moment devenue dreyfusarde, c'était forcément parmi d'anciens dreyfusards comme parmi d'anciens socialistes qu'on avait été obligé de recruter le parti de l'ordre social, de la tolérance religieuse et de la préparation militaire. On aurait détesté autrefois M. Bontemps parce que les antipatriotes avaient le nom de dreyfusard. Mais bientôt, ce nom avait été oublié et remplacé par celui d'adversaire de la loi de 3 ans. Monsieur Bontemps était au contraire un des auteurs de cette loi, c'était donc un patriote. Il y a comme une sorte de mémoire courte dans tout ça. Cet oubli, nous dit Proust, qui était octroyé au dreyfusisme, l'était a fortiori au dreyfusard. Il y en avait plus du reste dans la politique, puisque tous, à un moment, l'avaient été, s'ils voulaient être du gouvernement, même ceux qui représentaient le contraire de ce que le dreyfusisme, dans sa choquante nouveauté, avait incarné au temps où Saint-Loup était sur une mauvaise pente, nous dit Proust, qui ne perd jamais ses personnages des yeux, l'antipatriotisme, l'irreligion, l'anarchie, etc. Aussi, le dreyfusisme de M. Bontemps, invisible et constitutif, comme celui de tous les hommes politiques, ne soyait pas plus que les os sous la peau. Personne ne se fut rappelé qu'il avait été dreyfusard, car les gens du monde sont distraits et oublieux, parce qu'aussi il y avait de cela un temps fort long, et qu'ils affectaient de croire plus long, car c'était une des idées les plus à la mode, de dire que l'avant-guerre était séparée de la guerre par quelque chose d'aussi profond, simulant autant de durée qu'une période géologique, Et Brichot lui-même, ce nationaliste, quand il faisait allusion à l'affaire Dreyfus, disait « Ouf, dans ces temps préhistoriques !» Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Nous allons parler évidemment ensemble des causes de cette guerre de 14 et plus généralement du destin de l'Europe. Mais avant cela, je ne résiste pas à vous demander si vous ne vous retrouvez pas un peu, en quelque sorte, dans la description que Proust fait de Monsieur Bontemps. Vous avez longtemps été tenu à l'écart, si je puis dire, par un certain nombre de penseurs de l'ordre. Et aujourd'hui, vous avez tendance peut-être, parce que vous défendez la nation et la souveraineté, à leur paraître plus sympathique.
Mais vous savez, je défends toujours la paix. Je ne suis pas un parangon de l'ingérence dans les affaires d'autres puissances. Je pense être assez fidèle à moi-même. Je pense qu'il ne faut pas confondre les patriotes et les nationalistes.
Voilà.
Et Clémenceau, qui était un Dreyfusard, était aussi un patriote. Il l'a toujours été. Et je pense qu'il vote la loi de 3 ans, comme Peggy était à la pointe de l'anti-Dreyfusisme, du Dreyfusisme.
Tout en étant très patriote.
Et à partir de 1905, après le coup de Tanger, il devient sensible aux patries charnelles et il dit que le spirituel s'enracine dans le temporel.
Nous nous retrouvons dans un instant pour évoquer les racines de cette guerre de 1914.
Nous sommes au cœur de l'histoire des origines de la guerre 14-18 avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Pierre Chevènement, sénateur de Belfort et ancien ministre, auteur de 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire aux éditions Fayard.
Alors, vous savez à quel point, Céline, je suis sensible aux grandes fresques historiques, à l'histoire comparée, à la philosophie de l'histoire, etc. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Jean-Pierre Chevènement, et c'est devenu suffisamment rare pour être souligné et salué, car malheureusement, un très grand nombre des ouvrages d'histoire qui paraissent actuellement sont très ancré sur un sujet particulièrement circonscrit, et souvent on a l'impression qu'on tourne un peu en rond sur une même question. Vous ouvrez de vastes horizons, vous retracez de vastes perspectives, Jean-Pierre Chevènement, et grâce à vous, on est en droit, à la fin de la lecture, de comparer la situation à la veille de 1914 avec celle que nous vivons aujourd'hui, pour des raisons d'hégémonie sur lesquelles nous reviendrons vers la fin de cette émission, si vous le voulez bien. Revenons, pour commencer, à 1914. J'ai ouvert mon récit tout à l'heure par un léger portrait du Kaiser Guillaume II. On parle beaucoup de Guillaume II dans ses pages, bien entendu. On se rend compte, lorsqu'on le connaît un peu mieux, qu'il n'était pas si belliciste qu'il le paraissait. Il faisait beaucoup de rodomontades, beaucoup de grands discours, mais finalement, il avait peur de la guerre, à titre personnel.
Il était cyclotymique. Il a tantôt donné son accord au plan de guerre préventive dès 1912, par exemple, selon le témoignage de l'amiral Müller, qui était un de ses proches. Et à d'autres moments, il envoyait des télégrammes à Nicolas II pour lui dire « Nous pouvons ensemble, mon cher Niki, éviter cette guerre ». Donc, qui était le véritable Guillaume II, on ne le sait pas très bien.
Ceux qui, en revanche, avaient un point de vue très ferme et qui n'en ont jamais changé, ce sont ceux qui gravitaient autour de lui. C'est le haut état-major, ce sont les cercles berlinois.
Il est certain que les décideurs de l'Allemagne impériale, c'est-à-dire le chancelier Bethmann-Hollweg, son ministre des Affaires étrangères, von Jagow, et surtout l'état-major, à l'époque Moltke, mais aussi ceux qui l'entouraient, Falkenhayn, Tirpitz, d'autres, étaient très influencés par un courant, le pan-germanisme, qui s'était développé.
Il faut expliquer, oui, ce qu'est le pan-germanisme.
À partir de 1890, disons que quand Guillaume II est arrivé au pouvoir, il a congédié Bismarck, vous l'avez rappelé, et Bismarck avait une politique d'équilibre et de sécurité continentale, donc il était partisan de l'alliance des trois empires, Allemagne, Autriche, Hongrie, Russie. Il isolait la France, donc voilà, c'était une politique qui était assez judicieuse. Il se moquait des colonies, n'en voulait pas, considérait qu'une colonie en Afrique ne valait pas les os d'un seul grenadier poméranien. Mais quand il a été congédié, on a vu s'exprimer la nostalgie de l'empire colonial. Certains courants d'opinion en Allemagne disaient « mais la Grande-Bretagne, la France se sont taillés d'immenses empires et l'Allemagne a besoin d'avoir sa place au soleil ». C'est ce qu'exprime dans un discours de 1897 le chancelier von Bülow. Et il me semble que dans le pan-germanisme, il y a deux courants, ceux qui veulent un empire colonial en Afrique et ceux, beaucoup plus graves, qui veulent un empire colonial en Europe, en refoulant les Slaves, les Russes, jusqu'à la Baltique et à la mer Noire, et en créant un empire.
Et ceux-là n'ont pas fini de faire parler d'eux, évidemment.
Et ceux-là n'ont pas
bien
fini.
Bien après la Première Guerre mondiale.
Bien entendu, parce que les germes du nazisme, ils sont présents dans l'avant 1914, il faut le dire. Toutefois, et permettez-moi de le dire, si je m'amuse à écouter Margaret Macmillan décrire ce qu'était l'arrière-plan culturel de l'avant 14, je ne suis absolument pas d'accord avec elle.
C'est bien pour
je
ça
pense qu'elle noie le poisson et qu'elle oublie que dans la première mondialisation libérale, dominée par la Grande-Bretagne, il y a un patron, un hégémon, qui fait respecter les règles du jeu, que d'ailleurs elle a établi elle-même. La Grande-Bretagne est maîtresse des mers, son empire représente le cinquième de la population mondiale. En Europe, elle est fidèle à sa politique traditionnelle, elle veut garder les mains libres et elle veut établir l'équilibre des puissances. Ce que ne veut surtout pas la Grande-Bretagne, c'est qu'une puissance prenne l'avantage et parvienne à la domination continentale.
Ce qu'elle avait montré du temps de l'époque napoléonienne déjà.
Et voilà, et là est le vrai ressort de la guerre de 1914. Bien entendu, l'Allemagne commet des erreurs considérables. D'abord, carte blanche donnée à l'Autriche-Hongrie pour mater la Serbie. Ensuite, elle déclenche une guerre préventive, soi-disant contre la menace russe, mais elle se tourne d'abord vers la France.
Oui, c'est un paradoxe.
Et non, mais c'est un paradoxe qui montre les limites de l'explication par la Russie. Et elle se rue à travers la Belgique, violant un traité de neutralité dont l'Angleterre est garante. Mais la raison pour laquelle la Grande-Bretagne va intervenir, c'est que elle n'accepte pas plus en 1914 la domination de l'Europe tout entière par l'Allemagne impériale qu'elle n'a accepté un siècle auparavant la domination de l'Europe par l'Empire napoléonien. Donc ce sont exactement les mêmes ressorts. Là est l'explication véritable de la guerre de 1914.
Et les Allemands se sont aventurés sur les mers de manière très dangereuse aux yeux de la Grande-Bretagne, bien entendu.
Alors, c'est cette course à l'armement naval. L'inquiétude allemande, c'est que sous l'impulsion sous l'impulsion de l'amiral von Tirpitz, l'Allemagne avait un programme d'armement naval qui, à terme, menaçait la suprématie maritime britannique, qui était le ressort de sa puissance mondiale. Donc voilà, l'Allemagne a commis deux erreurs, l'Allemagne impériale a commis deux erreurs. Elle a énormément exagéré la puissance russe, mais on le fait toujours aujourd'hui. Et d'autre part, elle a sous-estimé les réactions de méfiance qu'elle allait susciter chez les anglo-saxons. Hein. Je ne parle pas de la France, la guerre de 1914-1918 n'est pas une guerre franco-allemande. Elle est une guerre d'abord entre l'Allemagne impériale et l'Empire britannique pour l'hégémonie mondiale. Donc, il faut comprendre cela.
L'hégémonie au sens économique et commercial, essentiellement.
Au sens économique, commercial, mais aussi militaire. C'est-à-dire que la grande puissance, c'est l'Allemagne. En tout cas, l'Allemagne veut bien partager son hégémonie avec la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, elle, ne le veut pas.
Alors, Il y a deux grandes explications toujours avancées et que vous battez en brèche. La première, c'est le nationalisme fervent des peuples, en quelque sorte. Vous pensez que les nations ne sont pas en cause dans cette affaire, ce sont leurs dirigeants qui gèrent cette affaire. C'est bien ce que j'ai compris.
Bien entendu, la description que fait Margaret Macmillan est amusante. Il y a effectivement cet arrière-plan culturel, un certain darwinisme
social,
exaltation, mais chez les élites. Ce n'est pas vrai du tout dans les peuples. Et tous les historiens aujourd'hui constatent que les peuples étaient pacifiques, que la mobilisation en France s'est faite certes avec une grande détermination, mais par des gens qui faisaient leur devoir. Il n'y avait pas cet enthousiasme qu'on a décrit. Il y a eu quelques petits épisodes, mais tout à fait mineurs. Et je dirais que les Allemands eux-mêmes, on leur avait fait croire qu'ils étaient menacés et même attaqués par la Russie, et qu'il fallait se défendre contre cette puissance autocratique. Donc il y avait la vieille russophobie, héritée de Marx d'ailleurs, à l'époque où la Russie tsariste réprimait le printemps des peuples, Kossuth, etc. Donc tous les peuples, au fond, étaient de bonne foi. Et ce ne sont pas les nations qui ont entraîné la guerre, ce ne sont même pas les nationalismes, c'est dans les trois cercles de décideurs, et je le situe malheureusement à la tête de l'Allemagne impériale, du Deuxième Reich, ce sont des décisions hâtives, imprudentes, qui allaient contre l'intérêt de l'Allemagne elle-même. Car quand on regarde la mondialisation libérale d'avant 14, on voit que l'Allemagne croît très vite. Elle triple sa production quand l'Angleterre double la sienne, que la France n'augmente sa production que d'un tiers. Et c'est cette surpuissance économique que nous constatons encore aujourd'hui de l'Allemagne qui lui assurait en quelque sorte une domination pacifique de l'Europe. Donc l'erreur pour l'Allemagne, qui était la puissance montante, a été de déclarer une guerre où l'Angleterre s'est engouffrée, mais à la surprise allemande, et n'oubliez pas qu'il y avait ce chant de haine contre l'Angleterre en Allemagne dans les années, enfin en 1914, au mois d'août 1914, parce que les Allemands considéraient que l'intervention de la Grande-Bretagne était une trahison à leur égard en tant que peuple germanique,
anglo-saxon,
qui avait tout à fait le droit d'avoir sa place au soleil.
Oui. La deuxième grande explication, c'est le jeu des alliances qu'on apprend aux écoliers et dans les écoles, bien entendu, la triple entente contre la triplice, etc. Ce jeu d'alliance, nous dites-vous, n'est que mécanique, il n'explique pas le fond de l'affaire.
Oui, la mécanique transmet le mouvement, mais elle n'est pas à l'origine du mouvement. Et je dirais que la France est prise dans une espèce d'engrenage. Il y a un engrenage qui se met en place. Le gouvernement français était pacifique. Il avait ordonné aux troupes françaises de se reculer à 10 km de la frontière. Le premier mort de la guerre de 1914, c'est dans le territoire de Belfort. C'est le caporal Peugeot à Joncheret, à 10 km de la frontière d'alors. Et il y a un lieutenant de Houlan, Mayer, qui est également tué dans ce premier combat qui date du 2 août, c'est-à-dire la veille de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France.
Et c'est le sénateur de Belfort qui vous le dit.
Ludwig van Beethoven avec un extrait de l'hymne à la joie. Nous sommes au cœur de l'histoire des origines de la guerre 14-18.
Et de l'Europe. D'où le petit clin d'œil à Beethoven.
Et oui, avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean-Pierre Chevènement, sénateur de Belfort et ancien ministre, auteur de 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire aux éditions Fayard.
Alors justement, il y a pas mal de questions d'auditeurs. Jean-Pierre Chevènement, je vous propose d'y répondre rapidement avant de poursuivre notre conversation. Dominique nous demande, nous conseille en tout cas pour restituer et comprendre le climat d'avant 14, le remarquable ouvrage de Stefan Zweig, le Stefan Zweig comme on dit, le monde d'hier. C'est vrai que grâce à un certain nombre de ces intellectuels, on peut mieux saisir quel était l'état d'esprit, encore une fois dans les élites comme vous le disiez.
Alors, il faut se rappeler que Stefan Zweig était en vacances en Belgique quand les prodromes de la guerre se sont annoncés. Il a pris le dernier train pour l'Allemagne. Il était effrayé de voir l'avancée de l'armée allemande. Il a rejoint l'Autriche-Hongrie. Mais lui-même, il faut le dire avec tout le respect qu'il mérite, dans les premiers temps, disons les deux premières années de la guerre, a participé quand même à un certain enthousiasme, enfin un certain unanimisme derrière Franz Josef et la défense de la double monarchie. C'est au bout de 2 ans qu'il a rejoint la Suisse, Romain Rolland, et qu'il est devenu un intellectuel pacifiste au-dessus de la mêlée. Celui qui a vraiment été au-dessus de la mêlée dès le départ, qui s'est déclaré comme tel, et il était d'ailleurs dans une situation difficile, c'était Romain Rolland qui se trouvait en Suisse, et qui quand même critiquait les destructions opérées par les armées allemandes à Louvain ou à Reims. Vous lisez ses livres, c'est très intéressant. Mais je crois que il faut voir que beaucoup de choses qui ont été écrites sur la guerre de 1914 ont été écrite après. Et sur le moment, prenez quelqu'un comme Thomas Mann, il est très belliciste. C'est après qu'il va faire sa conversion extrêmement sincère, qu'il deviendra un parangon de l'antinazisme. Mais sur le moment, il faut bien voir qu'il y avait ce climat que décrit très bien Margaret Macmillan, qui est au fond... une sorte d'invitabilisme.
Une course à la guerre, oui.
Alors, course à la guerre, résignation peut-être à la guerre, parce que personne ne voit, et les dirigeants sont évidemment plus coupables que les autres, que la guerre va être longue.
On a totalement mésestimé cet aspect-là.
Parce que les Allemands pensaient l'avoir fini de la France en 6 semaines, en envahissant la Belgique.
C'était le plan von Schlieffen.
C'était le plan von Schlieffen, élaboré dès 1905, même avant. Et la Grande-Bretagne, évidemment, est intervenue aussi pour empêcher que la France s'effondre. Et les Russes ont attaqué en Prusse orientale dans des conditions d'impréparation tout à fait évidentes. Ils ont subi une défaite à Tannenberg, que leur a infligé Hindenburg, mais c'était pour venir au secours de la France. Et d'ailleurs, un corps d'armée a été distrait du front occidental vers le front oriental, où les Allemands n'avaient maintenu que des troupes de couverture. Donc, il faut bien voir que personne n'envisageait une guerre longue, personne n'envisageait les ravages épouvantables de la guerre, de l'artillerie notamment, qui est responsable des 2/3 des blessés et des morts. Ce carnage, 11 millions de morts, personne ne l'avait envisagé.
Justement, c'est Patrick qui nous pose une question sur les industriels. Il parle de Basil Zaharoff, évidemment, entre autres, mais ces industriels qui ont été aussi beaucoup accusés d'avoir poussé à la guerre.
Il est certain qu'en Allemagne, Thyssen et Krupp pousse à la guerre, même Rathenau dans les premiers temps, qui sera assassiné par des nationalistes. Après la Première Guerre mondiale, Rathenau est aussi du parti belliciste. Et je pense que, bien sûr, cela existe. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut revenir aux véritables responsables. Parce que la guerre a été décidée par un très petit nombre d'hommes et que les autres n'ont fait que suivre les ordres reçus. Il y avait des fascicules de mobilisation. Ils ont fait leur devoir partout, mais ce ne sont pas les nations qui se sont jetées furieusement les unes contre les autres, pas du tout.
Est-ce que cette guerre aurait pu être arrêtée par un très petit nombre d'hommes? C'est Bill sur Twitter qui nous demande quel aurait pu être le rôle de Jean Jaurès ou de Caillaux dont nous parlions il y a quelque temps.
Il n'était pas en position décisionnaire. Jaurès ne pouvait rien parce que la France n'était pas non plus en position décisionnaire. Ceux qui auraient pu arrêter la guerre, c'était les Allemands. Les Britanniques, s'ils avaient imposé une médiation. Et les Britanniques l'ont proposé, les Allemands l'ont rejeté, une médiation entre l'Autriche-Hongrie et la Russie.
Alors il y a eu, oui, un certain nombre de tentatives, même de paix séparée, etc. On va pas entrer dans
après,
tout...
Après, je parle d'une médiation avant.
Avant qu'elle ne soit déclenchée.
Avant que la guerre soit déclarée. Alors ensuite, il y a en 1917, la tentative de Charles Ier, qui avait succédé à Franz Josef en Autriche-Hongrie, mais c'était voué à l'échec.
Alors, nous n'allons évidemment pas entrer dans la guerre elle-même, ça n'est d'ailleurs pas le propos de votre ouvrage, puisque, encore une fois, vous comparez la situation, ce que vous appelez la mondialisation d'avant 1914, avec une autre mondialisation, celle que nous vivons aujourd'hui. L'hégémone, le patron, comme vous disiez tout à l'heure, avant 14, c'était la Grande-Bretagne, aujourd'hui, ce sont les États-Unis.
Alors, l'hégémonie a franchi l'océan. Les nations européennes ont été discréditées, injustement d'ailleurs, dévalorisées, ce qui fait qu'on peut construire une Europe technocratique sans problème, puisque les nations n'ont plus leur mot à dire. Aujourd'hui, effectivement, ce sont les Américains qui sont à la manœuvre. Ils le sont depuis longtemps. Mais la première mondialisation a fait surgir l'Allemagne impériale. La deuxième mondialisation fait surgir ce qu'on appelle les émergents. Et au premier rang desquels, la Chine. La Chine qui a décuplé sa production.
Joue un peu le rôle que jouait l'Allemagne face à la Grande-Bretagne ?
Elle joue un rôle, je dirais, elle a développé sa production beaucoup plus vite que l'Allemagne impériale. Elle a décuplé sa production en 20 ans. Elle aura la même production que les États-Unis en 2020. La Chine, c'est 1400 millions d'habitants, c'est un renversement complet du monde. Et avec la Chine, il y a beaucoup d'autres pays émergents, donc c'est un basculement du monde dont il faut avoir idée.
Basculement dont les États-Unis sont les premiers à avoir tiré les conséquences, du reste avec un repositionnement, avec un changement de centre de gravité de leurs intérêts et de leur système de défense.
Exactement, ils ont opéré le pivotement, comme ils disent, de leur flotte, qui majoritairement est passée de l'Atlantique au Pacifique. Ils ont une stratégie commerciale visant à isoler la Chine, le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique. Disons qu'il y a la volonté de contenir la Chine, c'est ce qu'on appelait la politique de containment, hein, et je dirais que il faut être très prudent dans cette période. Et moi, je le dis toujours aux dirigeants chinois quand je les rencontre, faites très attention, parce que vous savez, nous avons une expérience, nous, la vieille Europe, hein, il ne faudrait pas que vous la renouveliez. Bien sûr, vous avez légitimement le droit de reprendre la place qui était la vôtre au début du 19e siècle, mais suivez le conseil de Deng Xiaoping avant de traverser le fleuve, tâtez le fond de la rivière pour savoir où sont les pierres.
Vous pensez qu'il y aurait un pan-germanisme à la chinoise, d'une certaine manière, en gestation quelque part du côté de Pékin ?
Il y a un nationalisme chinois. Le Parti communiste, aujourd'hui, est un parti nationaliste. Il a hérité de toute l'histoire de la Chine, de l'Empire et du Kuomintang. Donc, c'est un parti qui reste communiste à certains égards, mais qui est d'abord un grand parti nationaliste. Je pense que la Chine ne vise pas l'hégémonie mondiale. Elle est très soucieuse de trouver des codes. C'est difficile, parce que c'est une civilisation qui n'est pas la civilisation occidentale. C'est une autre civilisation millénaire qui a ses références, Lao Tzu, Confucius, etc. C'est un autre monde, il faut le comprendre et il faut trouver des compromis pour que la montée très rapide de la Chine n'induise pas des troubles qu'on ne pourrait contrôler. Et c'est toujours possible, vous le voyez en mer de Chine, avec les querelles autour des îlots, Shenkaku, etc. Ça peut dégénérer. Et les Américains ont quand même formé une alliance implicite du Japon à l'Inde, en passant par les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam, pour contenir la menace chinoise.
Finalement, la Grande-Bretagne voulait défendre son hégémonie mondiale et ce sont les États-Unis qui ont bénéficié de la Première Guerre mondiale. Ils en sortent au premier rang, ils deviennent la nouvelle grande puissance, même si la Grande-Bretagne restera une grande puissance, au moins jusqu'en 1940. Est-ce qu'on peut dire que la Première Guerre mondiale n'a pas été bien résolue, que le traité de Versailles, et au-delà du traité de Versailles, que l'ensemble des négociations de paix constitue un échec à vos yeux, Jean-Pierre Chevènement?
Ceux qui disent cela comme cela formulent une analyse superficielle. La grande faiblesse du traité de Versailles, qui était d'abord un traité politique qui visait à redonner à un certain nombre de nations d'Europe centrale et orientale leur liberté, la grande faiblesse du traité de Versailles, c'est l'absence de soutien américain. Les Américains n'ont pas ratifié le traité de Versailles, étaient rejetés à deux reprises par le Sénat. Wilson a été battu. Les garanties que Wilson avait données à Clémenceau et qui avaient arrêté l'armée française le 11 novembre 1918, ces garanties sont tombées à l'eau et nous sommes retrouvés tout seuls, totalement abandonnés, hein, sans notre allié russe, sans l'aide américaine, puisqu'il fallait payer rubis sur l'ongle, en 1939-40, avec des Britanniques qui se préparaient déjà à livrer la bataille d'Angleterre, parce qu'ils estimaient que la bataille de France était perdue. Alors je voudrais relativiser aussi l'effondrement de 1940. La France était toute seule, elle était divisée contre elle-même aussi. Il faut le dire, c'est la racine peut-être de cet effondrement.
Jean-Pierre Chevènement, 1914-2004, l'Europe sortie de l'histoire, avec un point d'interrogation, c'est édité chez Fayard. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement de nous avoir fait profiter de vos lumières et de votre amusement envers cet autre ouvrage dont je me suis servi pour mon récit, Vers la Grande Guerre, comment l'Europe a renoncé à la paix, de Margaret Macmillan. C'est édité chez Autrement. Et puis si vous êtes amateur de ces grandes perspectives, de ces études générales, de ce que Jean Giraudoux appelait le tracé des grues volantes et des races, je vous signale l'apparition du numéro 142 de la revue Politique Internationale de Patrick Wajsman, où les plus grands experts mondiaux sont constamment amenés à se prononcer. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Loïc sur l'origine de l'expression des potrons minés ou des potrons jaqués.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Loïc, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître l'origine de l'expression des potrons minés ou des potrons jaqués.
Alors, des potrons minés, ça veut dire, je le précise parce que j'ai remarqué en venant ici qu'un certain nombre de personnes, c'est une expression qui est un petit peu désuète aujourd'hui. Ça veut dire de bonne heure, hein, tout simplement, de très bon matin, à l'aube, si vous préférez. L'expression elle-même, elle est répertoriée à partir du 19e siècle. Or, et Loïc nous le fait remarquer, il existe aussi cette expression des potrons jaqués, qui a la même signification et qui monarchie, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'on en trouve des traces dès avant le milieu du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on ne dit plus du tout dépoteron Jacquet. Il arrive encore, quand on est un peu vieille France dans mon genre, de dire dépoteron Minet, mais dépoteron Jacquet, alors là, ça n'existe plus. Bon, ça vient d'où ? Potron, qu'on écrivait patron aussi. Parfois, c'est le postérieur de l'animal, ça vient de posterio en latin, hein, tout simplement. Et Minet, ben, c'est le chat. Et donc, dépoteron Minet, c'est quand on ne voit plus que la queue, que le postérieur du chat, vous savez, qui est en train de rentrer parce que la nuit est terminée. C'est ça, c'est cette espèce de moment entre le crépuscule et l'aube, là, le tout petit matin, où les animaux, eh bien, font volte-face et rentrent. Et avant que ce ne soit des chats, c'était des jacquets qui faisaient ça. Les jacquets, c'était les écureuils autrefois. Donc, dépoteron jacquet, c'était quand on ne voyait plus que la queue de l'écureuil dans la petite lueur du matin.